septembre au 9 octobre, l'abbaye de Royaumont présente sa saison musicale et cette année, l'académicien des Beaux-Arts Yanis Xenakis est au programme puisque 2011 représente l'anniversaire des 10 ans de sa mort. Nous sommes avec Danielle Piston, correspondante de l'Académie des Beaux-Arts, directrice de l'Observatoire musical français. Bienvenue dans cette émission Point de vue. Yanis Xenakis était un compositeur, architecte et ingénieur d'origine grecque. Est-ce que vous pourriez tout d'abord nous dire quelques mots sur lui ? Difficile.
Quelques mots, c'est difficile. C'est vrai que c'est une personnalité complexe, comme vous l'avez dit, un scientifique.
Transversal également, il fait beaucoup
oui,
de choses.
Et en cela, fort représentatif de la musique du second XXe siècle. Alliage, science et art. Introduction de méthodes graphiques. Calcul de probabilité.
Tout ça dans la musique, c'est possible ?
Tout est possible dans la musique. Vous savez bien que la musique, c'est un macrocosme. On y met tout. Un exemple isolé, finalement, et encore plus attachant, qui n'a presque pas eu de disciples, qui a été compositeur, mais qui a été aussi professeur d'université, directeur de thèse. Comme vous soulignez qu'il était membre de l'Académie des Beaux-Arts, il l'a été, je crois, 17 ans, jusqu'à sa disparition en 2001. Et pourquoi n'a-t-il pas eu de disciples ? Si, on peut dire que Pascal Dussapin est peut-être un héritier. Mais Georges Apergis, par exemple, qui est grec, a été un tout petit peu influencé au début de sa carrière, mais il a renoncé. C'est tout simplement, je crois, parce qu'il est très difficile de se mettre au niveau de Xenakis, qui est philosophe, qui est mathématicien, qui est architecte, et qui, sans arrêt au cours de sa carrière, a été un trouveur, un inventeur. Si vous voulez le réduire aux méthodes graphiques, non, il faut aller au calcul de probabilité, au mouvement brownien. Si vous voulez dire que le glissando, c'est le stress stylistique de Xenakis, vous vous trompez. Dans ses dernières œuvres, il n'y en a plus du tout. Donc c'est, comme tous les artistes authentiques, quelqu'un d'insaisissable et quelqu'un qui, je crois, s'est attaché tout autant à l'aspect scientifique. Par exemple, il détestait le vibrato. Il détestait le vibrato parce qu'il disait « ça, c'est de la sensiblerie ». Moi, ce que je veux, c'est la sensibilité. Donc, il s'intéressait à l'abstraction. D'ailleurs, souvent, il passe pour le champion de l'abstraction. La musique, c'est le nombre aussi. Mais aussi, quelqu'un qui s'est intéressé beaucoup au son en lui-même, à la sonorité. Il n'hésitait pas à modifier le résultat des calculs s'il pensait que le résultat ne devait pas être bon. Et il est très peu de personnalités musicales de ce type.
Est-ce qu'on peut écouter Xenakis chez soi ? Est-ce que c'est agréable ?
Pas du tout. Je pense que bien des mélomanes qui apprécient Xenakis ne savent absolument pas comment cette musique est faite. C'est Glissando, par exemple, de Métastasis, qui est sa première grande œuvre pour orchestre. Ça a quelque chose de fascinant. Il y a des fortés extraordinaires chez Xenakis. Évidemment, ce n'est pas de la musique baroque ou de la musique romantique, c'est de la musique du XXe siècle. Il faut accepter la musique d'avant-garde.
Et personne ne lui ressemble. Même Boulez ?
Ah non, surtout pas Boulez. Vous savez qu'au moment où Boulez disait que la seule musique valable devait être la musique sérielle, c'était au début des années 1950, car il faut bien voir que quand Xenakis arrive en France en 1947, il ne sait plus ce qu'il doit faire en musique. C'est une période de profond bouleversement. 1848 avait vu la naissance de la musique concrète, la musique sérielle, introduite par Schoenberg en 1923, avait tendance à se généraliser, Messiaen avait proposé de généraliser les séries, et quand Xenakis arrive, il ne sait plus où il doit se tourner pour composer. Honegger, Millau, Nadia Boulanger, personne ne l'accueille vraiment très favorablement. Il n'y a que Messiaen dont il suivra les cours, et qui lui dira « mais suivez votre voix ». Et je crois qu'il a toujours été profondément reconnaissant à Messiaen de lui avoir laissé cette liberté de trouver sa voix.
En ce début de rentrée en septembre, nous avons le bonheur de pouvoir écouter du Xenakis au sein même de l'abbaye de Royaumont, qui est un endroit extraordinairement beau. Et il y a également une exposition. À ce propos, l'abbaye de Royaumont a eu envie de rendre hommage en quelque sorte à cette différence. Est-ce que vous pourriez nous aider à comprendre cette différence ? Est-ce qu'il voulait vraiment être différent, Yanis Xenakis ? Il faut quand même avoir un sacré caractère pour assumer.
Je ne pense pas que la volonté déclarée d'un artiste soit de se rendre différent. Il avait des possibilités en tant que scientifique, puis ensuite en tant d'architecte, un métier qu'il a appris sur le tas, hein, chez Le Corbusier. Il n'était pas architecte en sortant de Grèce. Donc il avait des possibilités qui n'étaient pas celles des autres, et...
Il les a mis à profit.
Tout à fait. Il ne faut pas oublier que dans notre Occident, il faut faire du nouveau. Xenakis n'est pas quelqu'un qui s'attache au courant néoclassique ou néo-sériel. C'était vraiment quelqu'un qui était sur la voie des avant-gardes. Et dans les années 50, c'était encore une fois très important.
Est-ce que vous pourriez nous recommander une œuvre à écouter ?
Ah oui, Métastasis, qui est sa première grande œuvre pour orchestre. Nuit, pour voix soliste, qui est une œuvre touchante dédiée à tous les prisonniers politiques. Vous savez que Xenakis avait été dans la résistance. Hein. Il y a aussi toute une carrière politique de l'étudiant Xenakis. Et puis, vous vous rendrez compte sans doute que toutes ces partitions sont épouvantablement difficiles. Il n'est pas rare d'entendre les interprètes de Xenakis raconter qu'ils sont venus voir le maître en leur disant « Mais écoutez, je ne peux pas jouer ça. » Et il les accueillait toujours très gentiment. C'était son caractère en leur disant « C'est pas grave. Un jour, il y aura bien quelqu'un qui pourra le jouer. »
Alors, la preuve.
La preuve.
Certains peuvent le jouer, donc je vous recommande à tous d'aller à l'Abbaye de Royaumont. C'est du 2 septembre au 9 octobre.
C'est un site tellement séduisant, 30 km de Paris, avec en plus une navette qui peut venir vous chercher. C'est irremplaçable, Royaumont. Pour nos jeunes musicologues, la bibliothèque François Lang est aussi une source extraordinaire.
Avec des documents très, très
bien
anciens,
sûr, bien
très
sûr.
Originaux.
D'ailleurs,
très
je
beau.
Crois que nous avons en projet quelques accords avec Royaumont.
Alors tant mieux.
Thank you. Tic-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac